Rencontre avec Nathalie Lefèvre, l'émission consacrée à la découverte de personnalités inspirantes.
Bonjour mes très chers auditeurs, absolument ravis de vous retrouver pour un nouvel épisode de notre émission Rencontre. Nous allons vivre un moment passionnant, faire une rencontre fascinante avec une femme qui pratique la communication animale. Tout au long de son parcours, elle a découvert au fur et à mesure de ses expériences qu'elle avait ce don de communiquer avec les animaux. Elle vient de faire paraître un ouvrage aux éditions Jouvence, La communication animale intuitive à la rencontre de la conscience animale. Bonjour Fabienne Maillefer.
Bonjour Nathalie.
Alors, chère Fabienne, on vient de vivre un grand moment. Les auditeurs n'ont pas pu y participer, mais en tout cas, nous, ça nous a permis déjà de vivre pas mal d'émotions avant le début de cette émission. Il s'avère que il y a un de nos collègues qui est venu avec son chien aujourd'hui. Alors, fruit du hasard ou pas, il s'avère que il était encore il y a quelques instants présent avec Kinder, ce petit chien. Vous vous êtes mis à communiquer avec lui. C'était juste fascinant, Fabienne. J'ai envie que vous racontiez pour les auditeurs à quel moment de votre parcours vous avez pris conscience que vous étiez capable de communiquer avec les animaux.
Alors, la prise de conscience, elle s'est faite assez tard, mais j'avais l'occasion, déjà depuis petite, de par la vie que je menais, à la campagne, avec des animaux sauvages qui m'entouraient, et des animaux, surtout des équidés, de pouvoir parler avec les animaux dans un dialogue qui me semblait tout à fait naturel. Quelque chose de l'ordre de... J'entends ce qu'ils disent, ils me répondent, je leur réponds, et puis il n'y a rien d'extraordinaire à ça. Et c'est qu'il, seulement il y a 18 ans, à l'occasion d'un cours que je suivais, qui n'avait rien à voir, d'acupressure pour chevaux, que l'enseignante qui venait des États-Unis m'a dit « Ah, mais tu es communicatrice animale ». Et j'ai dit « C'est quoi ça ? C'est un métier ?» Et là, elle m'a dit « Ah, je ne sais pas si c'est un métier, c'est quelque chose de bien particulier. C'est une manière de pouvoir entendre, comprendre le monde animal, mais aussi le monde minéral et végétal. » Alors moi, je me suis arrêtée dans un premier temps au monde animal. Déjà, c'était un peu bizarre. Et je me suis dit, tiens, il y en a d'autres qui, comme moi, entendent ces choses-là et en ont fait quelque chose, à savoir un métier ou peut-être l'apprennent à d'autres. Et c'est ce qui m'a intéressée assez rapidement, c'était de pouvoir l'enseigner à d'autres. Comment je fais, comment ça marche et comment les autres vont pouvoir aussi l'apprendre.
C'est ça qui est fascinant, c'est qu'on peut avoir une aptitude naturelle à le faire. Après, c'est savoir comment est-ce qu'on arrive à un moment à rentrer en contact avec l'animal. Est-ce que c'est difficile de théoriser quelque chose qu'on fait de manière presque instinctive, naturelle ?
Alors oui, c'est clair que ça ne s'est pas fait tout seul. J'ai d'abord pris différents cours avec différents formateurs. Et puis, de par mes études, notamment en psychologie, ma compréhension aussi de la psyché humaine, différentes formations que j'ai suivies aussi, plutôt à caractère scientifique, sur la compréhension de comment marche l'intuition, puisqu'on est dans le domaine de l'intuition. Le fait que je sois aussi hypnothérapeute, tout ça mis ensemble m'a permis de créer une méthode qui permet aux gens, pas à pas, de pouvoir accéder à cette partie-là de leur intuition, qui n'est pas un don, qui au fait est propre à chacun, mais que l'on peut ensuite, disons, actionner sur commande. Et c'est ça l'objectif, c'est de pouvoir appuyer, entre guillemets, sur le bouton « on » pour pouvoir être en contact avec l'animal quand je veux et appuyer sur le bouton « off » pour ne plus être en contact avec l'animal quand j'ai terminé ma relation avec lui. Parce qu'imaginez, à ce jour, j'ai, je sais pas, 4000, 5000 communications à mon actif. Si j'étais en relation toujours avec tous les animaux de la Terre, ça serait invivable.
Bien sûr.
Donc, c'est aussi quelque chose que j'ai recherché chez mes différents formateurs et que j'ai pas toujours trouvé, la notion du bouton on et du bouton off. Parce que l'idée pour moi, c'est de pas être tout le temps ouverte à entendre tout ce qui se dit dans un rayon de X kilomètres autour de moi, mais de pouvoir décider de le faire au même titre que, voilà, je suis psy quand je suis en consultation et quand les gens me rencontrent pour ça, mais autrement, je suis Fabienne Maillefer, voilà, comme tout le monde.
Parce que finalement, est-ce que les animaux, ils ont conscience en vous croisant que vous êtes capable de communiquer avec eux ? Même quand le bouton off est enclenché.
Alors, honnêtement, je ne sais pas, parce que je n'ai jamais fait de recherche dans ce sens-là. Ça m'est arrivé une fois, dans une occasion très particulière, d'avoir un chien qui m'a interpellée. Et si on a le temps, c'est une anecdote quand même
génial,
assez amusante. J'allais préparer donc un stage. Je donne régulièrement des stages sur le week-end. Et à cette époque-là, c'était un restaurateur qui nous recevait à midi pour manger. Et j'allais, le jour d'avant, préparer le nombre de personnes, le menu, etc. avec le restaurateur. Donc, j'étais déjà dans un état d'ouverture et de préparation de mon stage. Et là, j'entends « psst ». Et je me dis « c'est qui ce psst dans ma tête ?» Et j'entends encore « psst, psst ». Et je me dis « c'est bizarre ». Et dans le restaurant, enfin plutôt la brasserie, il n'y avait qu'une seule personne avec un chien. Et je me dis « mais est-ce que c'est lui qui me parle ?» Et dans ma tête, pendant que j'ai discuté avec le restaurateur, je dis au chien, c'est toi qui me parles ? Puis il me dit, mais bien sûr que c'est moi qui te parle. Et je dis, bon, d'accord. Et je dis, mais alors, qu'est-ce que tu veux ? Et il me dit, je m'ennuie, mais j'en peux plus. Et tu sais, ça fait des heures que je suis là, il fait tellement beau dehors. Moi, j'aimerais tellement sortir d'ici. Et franchement, en termes d'attitude, ce chien avait plutôt l'air d'être bien. Il était assis à côté de son maître, il regardait tout ce qui se passait. Il ne donnait pas l'impression d'être un chien qui se languissait. Donc, je lui dis, écoute, je vais m'occuper de toi. Ok, je finis, je termine avec le restaurateur. On convient voilà, de l'organisation du lendemain. Je vais vers le monsieur et je lui dis, le propriétaire du chien. Et je lui dis, ah, ben vous avez un bien beau chien. Et le monsieur le gratte sur la tête et lui dit, oui, effectivement, c'est mon chien, il est super, il est intelligent et tout. Et je lui dis, oh, mais avec le temps qu'il fait dehors, ça serait tellement génial s'il était lâché, qu'il pouvait aller courir, vous ne trouvez pas ? Et il me regarde et il me dit, mais ouais, vous avez raison, je vais aller l'emmener. Et du coup, il part, et ce qui était le plus drôle, c'est qu'en partant, le chien m'a regardé et il a fait « yes
!» Limite un clin d'œil.
C'était vraiment très, très, très touchant. Mais c'est une expérience comme ça, parce qu'en règle générale, j'aime bien avoir les écoutilles fermées, parce que pour recevoir de l'information de type intuitif, il y a quand même un certain nombre d'écoutilles, on va dire, à ouvrir. Il y a des démarches à faire et je ne veux pas être que dans l'intuition écoute communication animale, parce que ça veut dire aussi que vous ne triez pas les choses. C'est-à-dire que vous n'entendez pas que les choses belles ou agréables, vous avez aussi l'information d'autres éléments qui sont plus désagréables.
Donc il y a des animaux, par exemple, qui peuvent vous faire part de leurs conditions de vie qui ne sont pas toujours des plus belles.
C'est ça, effectivement. Alors c'est des animaux et je l'enseigne aussi à mes élèves à qui j'envoie beaucoup d'amour en disant que je partage leurs difficultés et que je comprends. Je suis compatissante envers eux. Si je peux intervenir, si on est dans les cas de maltraitance, j'interviens mais auprès des autorités et pas auprès de l'animal. Mais je ne me permets pas d'aller parler avec un animal dont le propriétaire ne serait pas OK avec la démarche. Parce que quand un animal nous ouvre son cœur, il demande à ce qu'on ne le trahisse pas et qu'on puisse...
quelque part le respecter.
Oui, et puis répercuter au propriétaire, au compagnon de vie, l'animal, on peut l'appeler de différentes manières, répercuter en fait ce qu'il est en train de vivre. Et pour moi, ça serait une trahison de discuter avec lui et de lui dire « Ah bon, merci, c'était très sympa, j'ai passé un bon moment avec toi, mais c'est un exercice, tu vois. » Alors que l'animal nous confie des choses, comme on l'a vu tout à l'heure avec le cas de ce collaborateur. Voilà, ouais. C'est ça.
Ou justement, il forme un joli couple. Est-ce que j'imagine que vous pouvez parfois, à travers des communications, et vous rendre compte de couples dysfonctionnels entre un maître et son animal de compagnie ?
L'important à comprendre, c'est que dans une relation entre un communicateur, un animal et son propriétaire, il y a un moment, un instant T dans lequel le communicateur entre. Dans cet instant T-là, il peut avoir une connaissance très ponctuelle d'une problématique qui s'avère être présente, comme Kinder tout à l'heure, hein, qui n'était pas trop bien. Mais il peut aussi avoir une vision plus large de ce qui se passe dans la relation. C'est-à-dire qu'entre un maître et son animal se tisse au bout d'un certain temps, et il ne faut pas des mois, un troisième personnage qui est la relation. Et souvent, c'est cette relation-là qui est dysfonctionnante. Ni l'un ni l'autre, mais ce qu'ils ont tissé ensemble. Un peu comme dans les couples, hein, Pierre qui ne se sépare pas de Suzanne alors que l'un et l'autre se plaignent parce que depuis 20 ans, voilà, ça ne va pas entre eux. Et ils sont toujours là et les amis pourtant ont déjà conseillé des tas de choses. Mais en fait, ils ont tissé entre eux un troisième personnage qui est la relation. Et c'est exactement le même phénomène avec notre relation avec nos animaux, mais dans quelque chose de plus intense encore, parce que cette relation, elle est liée par l'amour inconditionnel que j'ai pour l'animal et que l'animal me porte. Et ça, c'est quelque chose d'extraordinaire, ce qui fait parfois dysfonctionner les gens, c'est vrai, dans leur comportement.
Est-ce qu'ils peuvent être parfois dans une forme de dépendance affective? Et quand il y a un troisième, une troisième personne qui rentre,
qui
vient un petit peu exactement déstabiliser l'équilibre tel qu'il était, est-ce que ça peut déstabiliser l'animal de compagnie?
Alors complètement, oui, oui, l'animal peut se sentir mis à l'écart ou au contraire prendre plus de place. Parce que parfois il se retire, parfois il en prend plus. Ça dépend aussi de comment on va instaurer la relation avec quelqu'un d'autre. Ça peut être un enfant aussi hein, qui entre dans la vie d'un couple. Ça peut être un nouveau conjoint, ça peut être un nouvel animal aussi. J'entends, on perturbe de toute façon l'équilibre de cette relation qui s'est installée. Et là, le communicateur peut être vraiment nécessaire puisqu'on n'est plus dans un problème de comportement. On n'est pas dans un problème de problème physique qui serait de l'ordre du vétérinaire, hein, on est dans quelque chose qui est de l'ordre plus émotionnel et relationnel. Et là, c'est vraiment la niche dans laquelle travaille de manière adéquate le communicateur.
Alors, pour quel type de raisons, on en a déjà évoqué certaines, les maîtres font-ils appel finalement à vous pour avoir une meilleure communication avec leur animal?
Alors, en règle générale, les gens appellent parce qu'ils sont en difficulté physique ou comportementale avec leurs animaux. Quand c'est une problématique physique, j'explique toujours que je ne suis pas vétérinaire et je demande s'il y a un vétérinaire dans la course et s'il a été consulté. Parce qu'il n'est pas question pour moi de faire du diagnostic à distance ou d'être ce qu'on appelle un outil diagnostique de premier recours. Ce n'est pas mon métier d'être vétérinaire et c'est à un professionnel d'évaluer ce qu'on appelle l'état clinique de l'animal, c'est-à-dire ce que l'on voit de comment est l'animal et de faire son diagnostic. Donc, pour les problèmes physiques, je renvoie au vétérinaire. Quand il y a effectivement des difficultés physiques non identifiées par le vétérinaire, alors souvent, je travaille avec un team de vétérinaires dans les pays francophones, maintenant, depuis quelques années. Alors souvent, le vétérinaire revient vers moi, mais je suis mandatée pour demander à l'animal par le professionnel et avec, bien sûr, l'acquiescement du propriétaire. Donc ça, c'est OK. Au niveau du comportement, soit c'est un comportement qui est un comportement inexpliqué, soudain, problématique, et si ce n'est pas de l'ordre du comportementaliste, à ce moment-là, effectivement, c'est mon travail de communicatrice. Mais sur 10 demandes de propriétaires, il faut réaliser qu'il y a seulement 8 demandes qui sont réellement, qui sont réellement pour la communication animale et 8 demandes que j'oriente. Donc je fais un travail un peu de tri, comme une infirmière aux urgences, hein, et je vais dire, OK, vous êtes allé voir un vétérinaire, vous êtes allé voir un ostéo, je ne veux pas rentrer dans cette situation-là parce que c'est du ressort, par exemple, du comportementaliste ou de l'éducateur canin ou félin. Je pense comme ça pour donner un exemple aux auditeurs, c'est la demande qu'il y a très très souvent, c'est le pipi du chat. Pourquoi mon chat fait pipi à côté de sa litière? Et c'est très désagréable et ça peut durer. Il y a des maîtres qui ont vraiment beaucoup beaucoup de patience parce que ça peut durer des semaines et des semaines, voire des mois, avant qu'ils interviennent et qu'ils fassent appel. Ma première question toujours, c'est de savoir si d'un point de vue physique, on a évalué si l'animal n'avait pas un problème de type cystite ou autre type de problème urinaire ou du système rénal. Et si ça a déjà été fait, investigué, ce qui est assez souvent le cas, je vais simplement demander si c'est depuis toujours ou si c'est un problème récent. Parce que si on est face à un chat de 6 ans qui fait pipi depuis l'âge de 3 mois à côté de sa litière et qu'aujourd'hui, pour des raisons X, ça devient insupportable pour ses propriétaires, moi, je ne suis pas la fée clochette, ça va être très compliqué parce qu'on est dans une histoire de rééducation comportementale. Oui. Si par contre, ça fait 2 ou 3 semaines ou depuis un événement particulier, par exemple un déménagement ou l'arrivée d'un nouvel animal ou l'arrivée d'un enfant, que l'animal fait pipi à côté de sa litière, alors là, effectivement, le communicateur va pouvoir expliquer à l'animal ce qui se passe, pouvoir lui demander aussi comment il vit, l'arrivée par exemple d'un bébé, et vider son sac, hein, c'est-à-dire qu'est-ce qu'il a sur le cœur, qu'est-ce qui est difficile pour lui, comment est-ce qu'on peut l'aider à passer ce moment-là, ou qu'est-ce qu'on pourrait aménager dans la maison. Alors un jour, j'ai eu un chat qui m'a dit qu'il fallait ramener le bébé d'où il venait, parce que ce n'était pas utile. Ça, c'était un peu compliqué. à gérer. Mais par contre, on a pu aller un petit peu plus loin. Oui, la dame et la maman n'étaient pas tout à fait pour ramener le bébé à la clinique. Donc, on a pu discuter avec le propriétaire, monsieur, madame et le chat, pour aménager aussi un endroit particulier qui était l'endroit pour le chat. Parce qu'en fait, lui, finalement, se sentait exclu de la maison. Il avait droit auparavant à gérer toutes les pièces de la maison, à faire comme il voulait. Et puis là, il était interdit à plusieurs endroits. Donc, les propriétaires ont réservé un endroit exclusivement pour lui.
Donc, l'animal peut faire des compromis ?
Exactement, oui. Il est possible de négocier avec eux du moment que ce n'est pas de l'asservissement. C'est-à-dire que pour moi, la communication animale n'est pas un moyen d'asservir les animaux aux desiderata des humains, parce que ça, on le fait déjà assez souvent comme ça, et il n'est pas question que j'entre dans ce jeu-là. Par exemple, je refuse de travailler avec des demandes que j'ai eues pour des chevaux de course, parce que où les demandes n'étaient pas « est-ce que vous pourriez parler avec mes chevaux de course ?» parce que j'ai l'impression qu'ils vont moins bien ou qu'il y a des problèmes.
Et c'était pour les faire gagner.
C'est ça. Parce que du coup, c'est jouer sur la loyauté de l'animal. Les animaux sont loyaux envers nos humains, envers nous humains. Et c'était de jouer là-dessus pour pouvoir les inciter à aller au bout de leurs possibilités pour faire plaisir. Et ça, je refuse complètement d'inciter l'animal à faire plaisir à son maître dans un but lucratif en plus, alors que lui-même on n'a plus trop envie, ou peut-être idem par rapport à des chevaux de concours ou d'autres animaux qui sont utilisés dans un but précis rémunérateur, on va dire, oui. Dans une activité rémunératrice, ouais.
Là, c'est incroyable, dans la communication auquel on a assisté entre Kinder et Nicolas, le chien finalement parlait d'avoir envie d'insuffler plus de confiance en son maître, puisqu'il pouvait remarquer à certains instants que son maître pouvait manquer de confiance en lui. Donc c'est incroyable, hein. Un animal nous fait évoluer autant qu'on le fait évoluer en s'occupant de lui. Hein.
Complètement. Et pour moi, la communication animale telle que je la propose, c'est vraiment un outil de développement personnel. C'est-à-dire que la technique pour entrer en lien avec un animal, c'est pas très compliqué en soi, c'est vite appris. Mais pour avoir une qualité relationnelle, pouvoir interpréter de manière très fine les choses, comme vous avez pu le voir tout à l'heure, oui. Ça demande d'être très au fait de où j'en suis moi dans ma vie, qu'est-ce qui m'appartient émotionnellement, qu'est-ce qui appartient à l'autre, est-ce que je suis en train de projeter des choses qui m'appartiennent sur le maître ou sur l'animal, ou bien effectivement je suis un filtre brut, si je peux dire ça comme ça, enfin neutre plutôt que brut, et je reçois l'information et je la restitue en l'ayant traduite. Donc cette démarche-là, elle demande un grand travail sur soi, de pouvoir se libérer de ses croyances, de ses a priori,
de ses projections.
De toutes ses projections, de tout ce que les phénomènes qu'on connaît bien en psychothérapie, qu'on appelle de transfert, et aussi de contre-transfert, parce qu'il y a des attentes du propriétaire. C'est très facile de leurrer les gens, malheureusement, en communication animale, si on reste sur des choses de type flatteuse pour le propriétaire. Votre animal vous aime beaucoup, il dit que vous occupez bien de lui, etc. D'où le fait aussi, pour moi, de rentrer en communication avec un animal uniquement avec l'assentiment du propriétaire, parce que j'en ai besoin en termes de collaboration pour qu'il valide les éléments que je vais recueillir de son caractère, de son environnement, de ses relations, des habitudes, des petites anecdotes de vie, des choses comme ça, qui vont me permettre de m'assurer que je suis bien avec cet animal-là et pas un autre, et aussi qui donne cette garantie au propriétaire de se dire « Ah, ok, elle n'est pas dans les généralités. » Là, elle parle de choses très précises, on a eu des exemples tout à l'heure, qui appartiennent uniquement à mon animal. Et ça peut être des exemples de tout ordre, et c'est intéressant, et j'insiste beaucoup auprès de mes élèves pour qu'ils travaillent sur tout ça, parce que pour moi, c'est le seul moment où on prend un risque en communication animale, c'est quand vous donnez des éléments de validation très précis, comme tout à l'heure, on peut en parler peut-être, hein, oui. Où j'ai décrit le square où le chien va et où il y a des arbres seuls avec un rond autour et des cailloux un peu jaunes comme ça. Et
il aime bien farfouiller à cet endroit.
Et c'est un endroit où il aime particulièrement bien farfouiller et où son maître a dit bah, « En fait, c'est le seul square qui existe à Paris qui est comme ça. Mm-hmm. » Donc, je trouve intéressant. Pour moi, c'est un super élément de validation parce que je n'habite pas Paris, je ne connais pas Paris complètement. Donc, ce n'est pas quelque chose que j'aurais vu autrement qu'à travers l'animal.
Donc tout le monde peut finalement se former à vos côtés, mais c'est un petit peu comme toutes les, tous les métiers de soins d'accompagnement. Il faut évidemment faire un travail sur soi, puis un travail qui ne s'arrête jamais, puisqu'il faut se réajuster à chaque instant, un peu comme le travail d'un psychothérapeute, on le disait, d'un thérapeute en général.
C'est ça. Pour moi, la communication animale, c'est vraiment un prolongement de mon métier. Ça implique que je dois sans arrêt travailler sur moi. Travailler sur moi aussi d'un point de vue énergétique, puisque toutes ces histoires-là de communication, ça passe par des fréquences, ça passe par notre corps et notre capacité à recevoir de l'information, non pas par les mots MOTS, mais parfois par les mots MAUX, puisqu'on peut ressentir des fois la souffrance physique d'un animal, mais ça passe par la possibilité d'être très finement en interaction avec son ressenti, que ce soit par les cinq sens, si vous voulez. Et ça veut dire que quand je suis en contact avec un animal, je suis déconnectée au niveau de ma tête. C'est pas mon mental et mes aspects cognitifs qui réfléchissent et mon néocortex. C'est vraiment mon corps qui reçoit l'information et qui le traduit. Donc en parallèle à ça, c'est important de travailler sur soi et sur son corps. De travailler le mouvement, de travailler la perception du corps et de travailler dans la fluidité au fait et quel que soit le corps qu'on possède, c'est de faire avec lui et de pouvoir être tout le temps connecté avec lui pour dire ok, c'est ça que je ressens. C'est par exemple tout à l'heure la demande était de savoir pourquoi Kinder était triste. En fait, pour moi, automatiquement l'information que je reçois, c'est pas de la tristesse, c'est qu'il est pas bien. Il a la tête, les oreilles qui bourdonnent, il a peut-être un peu de fièvre, ça on verra tout à l'heure.
Le vétérinaire le dira.
Mais il est dans un état plutôt de type pré-grippal ou fébrile
oui.
Mais pas dans un état de tristesse, en fait. Donc il n'y a rien qui affecte son humeur, si ce n'est qu'il n'est pas bien physiquement. Puis comme nous, quand on n'est pas bien physiquement...
Bien sûr, on a envie de rentrer, on a envie de se poser.
Voilà, c'est ça. Donc on n'a pas trop la pêche. Donc voilà.
J'ai une question qui me taraude, Fabienne. Est-ce que c'est plus simple pour vous de communiquer avec les animaux qu'avec les humains, finalement ?
Alors non, pas vraiment. J'ai autant de plaisir l'un que l'autre. C'est pour ça que je sépare mon activité en deux moments. Des moments où j'ai donc un cabinet d'hypnose spirituelle et où je permets à des personnes, où j'accompagne plutôt, des personnes qui sont en recherche de compréhension du sens de leur vie à travers des traumas qu'ils ont vécu. Je me suis spécialisée en psychotraumatologie et j'accompagne donc des gens à travers la recherche de vie antérieure mais aussi de vie future ou d'entrevie, ce qui se passe entre deux réincarnations, qu'on y croit ou pas d'ailleurs, hein. Mais de savoir un petit peu pourquoi, en fait, qu'est-ce que je suis venue faire dans cette vie, c'est quoi ma mission de vie et c'est quoi ma mission d'âme. Et pour moi, c'est un travail très parallèle à celui que je peux faire en communication animale, parce que les animaux, eux, ont la mémoire de ce pourquoi ils sont venus dans nos vies. Je vais différencier là les animaux sauvages des animaux domestiques, des animaux de compagnie. C'est-à-dire les animaux sauvages ont vraiment une mission spécifique qui est liée à l'harmonisation de la nature, etc. Les animaux domestiques, j'entends dans les animaux domestiques les animaux de rente, ils ont aussi un rôle très particulier et actuellement de plus en plus un rôle de prise de conscience dans nos populations. Parce que sans entrer dans une polémique de s'il faut ou pas manger de la viande animale, mais les conditions de détention dans lesquelles sont les animaux aujourd'hui, dans nos pays, sont inacceptables par rapport à leurs besoins fondamentaux et par rapport à l'engagement que les humains ont pris il y a plusieurs siècles de ça, quand ils ont proposé au monde animal d'être au service de l'humain. Pour moi, le pacte qui a été posé, le contrat qui a été posé à ce moment-là, était un contrat de collaboration et pas un contrat d'asservissement comme il l'est aujourd'hui, en mettant les animaux dans des conditions qui sont vraiment souvent inacceptables. Mais en même temps, j'aimerais quand même faire la part des choses parce que je viens d'un petit village de campagne et nous-mêmes, nous avons avec mon mari une ferme en agriculture biologique. Mais on cultive les arbres, on ne mange pas d'animaux. Mais par contre, il y a des gens autour de chez moi, des paysans qui sont très respectueux de leurs animaux. Et en France aussi, ce n'est pas une généralité non plus. Mais des exploitations à plus de 100 vaches, enfin, où les vaches n'ont plus de nom, elles ont des étiquettes avec des numéros, ça ne fait pas partie du contrat qui avait été passé. entre le monde humain et le monde animal, il y a 10 000 ans de ça, quand les humains se sont sédentarisés, que l'agriculture est arrivée, etc. Donc ça, c'est un gros problème. Puis après, il y a les animaux des animaux domestiques. Aujourd'hui, on a l'animal de compagnie. Oui. Ça veut dire parfois le substitut de mes manques oui. affectifs, de mes blessures de vie, mm-hmm. L'animal thérapeute, en fait. Oui. Et là aussi, parfois, ça met l'animal dans une situation très inconfortable parce qu'il a très peu d'espace pour être vraiment lui, c'est-à-dire un animal avec des besoins propres. Prenons ma chienne. Ma chienne travaille volontiers dans les stages avec les gens, avec la latence de pouvoir en revenir et repartir de la salle de stage. Maintenant qu'elle avance un peu en âge, parfois c'est un peu lourd émotionnellement, parce que les animaux sont des éponges comme les enfants et ils n'ont pas de moyens de pouvoir sortir leurs émotions autrement qu'à travers la nature et en se déchargeant énergétiquement dans la terre. Donc, ma chienne peut rentrer sortir de la salle de cours. Et avant et après chaque stage, on va faire des grandes promenades en forêt. Et là, vraiment, on voit qu'elle se décharge et qu'elle se libère des émotions qu'elle a accumulées de la part des gens durant le stage. Et il y a des fois où elle dit « Non, moi, j'ai pas envie de travailler aujourd'hui avec les gens. Je veux juste être là pour moi. » OK, c'est OK. Mais l'animal thérapeute est un animal qui nécessite d'être encore plus... considéré et encore plus chouchouté qu'un animal non thérapeute, et il faut lui consacrer vraiment beaucoup de temps et lui permettre de sortir. Et le problème des animaux de compagnie aujourd'hui, pas tous mais une grande majorité, c'est que souvent ils vivent en ville, les gens travaillent, et j'ai quand même très souvent des téléphones de personnes qui me disent « Vous ne pourriez pas faire quelque chose pour mon chien parce qu'il aboie de 7h le matin à 7h le soir ?» Et je lui dis « Ok, et vous êtes où, vous, pendant qu'il fait ça ?»« Ah ben moi, je travaille. » C'est les voisins qui me disent qu'il aboie et je vais me faire expulser de l'immeuble. Donc il y a un moment donné où il y a une cohérence aussi qu'il faut avoir avec le type d'animal que l'on choisit, ce qu'on peut lui offrir comme vie. Et quand l'animal est une manière de penser nos blessures d'âme, c'est important qu'il puisse avoir encore plus de temps, lui, pour pouvoir se réénergétiser dans la nature, dehors, bouger, avoir des vacances.
Prendre un animal, c'est pas juste penser à soi, c'est penser à lui et à la vie qu'on lui offre.
C'est ça, c'est ça. Et ça demande vraiment de s'arrêter, de pas acheter un animal de manière compulsive parce que... voilà, on
parce a qu'on vu a un manque
adorable,
affectif.
Exactement, ouais. Où on a vu un adorable animal, ou aujourd'hui c'est le cas sur Internet, je vois des annonces d'animaux qu'il faut sauver à tout prix, et la question toujours qu'il faut se poser, c'est qui je sauve quand je sauve un animal. Voilà.
Il y a aussi un engouement pour les NAC, les nouveaux animaux de compagnie. Il y a des gens qui ont des serpents chez eux, par exemple. Qu'en penser ? C'est des animaux qui ont été complètement enlevés de leur environnement naturel et qui vivent dans des vivariums, dans de petits appartements à Paris. C'est quand même pas l'idéal pour ces animaux-là.
Alors, au niveau de la qualité de leur vie, les exigences, je connais pas les exigences françaises, mais les exigences, en Suisse, où je vis... partie du temps, sont des exigences assez draconiennes, parce qu'il faut des surfaces, etc., des conditions de vie optimales. Je dirais que la question que je pose toujours par rapport au NAC, c'est quoi que je cherche dans cette relation avec des animaux sauvages ? Parce que finalement, le NAC, je prends le furet... après, les cochons d'Inde et les hamsters sont... considérés aussi comme des NAC, mais ça fait quand même très longtemps qu'ils sont domestiqués. Bon, ils sont domestiqués d'ailleurs, notamment dans les pays d'Amérique du Sud, comme
pour les manger.
Aliments. Voilà. Ouais. Mais la question, c'est de savoir pourquoi j'ai besoin d'un renard. Oui, mais c'est pas bête, parce que c'est en train de venir aussi. Mais pourquoi j'ai besoin...
Oui, des cochons maintenant. Oui, des cochons nains aussi.
Pourquoi j'ai besoin d'un serpent, ça. Pourquoi... Enfin, c'est quoi cette relation, et qu'est-ce que je mets en avant par rapport à moi-même, en ayant une tarentule ou un serpent chez moi. Je juge pas, je pose toujours la question. Bien J'ai sûr. Très peu de téléphones pour des problèmes de NAC, à part les furets, parce que les gens, quand ils prennent les furets, ils prennent parce que c'est adorable et mimi, c'est vrai, mais ils ne se rendent pas compte que d'abord un furet, ça dort beaucoup. s'est éveillé très peu de temps dans la journée, et quand c'est éveillé, c'est extrêmement vif, curieux, et ça s'accapare d'à peu près tout ce qu'il trouve, et ça peut vous retourner une maison en quelques heures, sans problème. Donc les gens sont des fois un peu surpris parce qu'ils espéraient avoir le petit furet qui allait leur faire des bisous dans le cou, etc. Alors que quand il dort pas, il est très actif et il fait des bisous dans le cou, mais il faut aussi plein d'autres choses. Donc...
Non, mais ça peut être la même logique avec les bébés. On s'imagine avant de faire des enfants juste le nourrisson qui est tout gentil, qui est tout doux. Puis en fait, on se rend compte que la réalité, on a un être humain à part entière avec sa personnalité, son énergie, tout comme un animal de compagnie qui, voilà, même si en dehors de la race, il aura sa personnalité. Et ça, on s'en rend bien compte.
Oui. Tout à fait.
Moi, j'avais une anecdote qui m'avait beaucoup marquée. Une femme qui vivait avec un python et qui dormait avec ce python dans son lit. Et puis, à un moment, elle s'est rendue compte, au bout de quelques années, qu'il se mettait, en fait, dans le lit tout le long de son corps, en fait, tout droit. Et puis, ça a duré comme ça quelques semaines. Et puis, elle en a parlé au vétérinaire qui lui a dit, en fait, il est en train juste de mesurer votre taille pour pouvoir vous manger. Donc, elle s'en est débarrassée. Mais je me suis dit, cet aspect dysfonctionnel des choses, ça peut aller quand même très, très loin, et parfois on veut apprivoiser des animaux qui finalement n'ont pas envie d'être là, donc c'est quand même étonnant tout ce que l'humain peut aller rechercher dans justement des animaux sauveurs, des animaux thérapeutes, comme vous le disiez, ce besoin affectif de combler un manque, et finalement on va demander à l'animal de jouer un rôle qu'il n'a pas à jouer,
c'est ça, complètement.
Au lieu de le laisser être qui il est.
Oui. Mais après, l'intérêt, une fois que l'animal est là, c'est de lui offrir les meilleures conditions possibles et de résoudre les problèmes éventuels.
Alors, chère Fabienne, donc on peut retrouver cet ouvrage, ce fabuleux ouvrage aux éditions Jouvence, La communication animale intuitive à la rencontre de la conscience animale. Donc, on peut aussi vous suivre sur votre site internet, dont j'ai l'adresse, www.communication.ch.
Alors, c'est communication animale .ch ou Fabienne Maillefer simplement sur Google, et je suis présente donc très régulièrement en France à peu près tous les mois pour donner des stages. Ces prochains jours est complet, mais je serai là à nouveau fin janvier sur Paris.
Est-ce qu'il y a une date pour le stage de fin janvier?
Alors, ça doit être le week-end du 27-28 janvier, quelque chose comme ça. On le retrouve sur
votre site internet.
Voilà, c'est sur 3 jours, c'est un vendredi, samedi, dimanche. Et déjà, au bout de 3 jours, on a déjà la possibilité de parler avec des animaux, déjà même le premier jour, de pouvoir faire des exercices avec des animaux qu'on ne connaît pas, des participants qui sont là, sur photo, parce qu'au départ, c'est plus facile de parler avec un animal par l'intermédiaire d'une photo. On est moins perturbé par tous les autres signes qu'il pourrait nous montrer, qu'on pourrait interpréter comme étant... des choses qu'il nous dit, alors que il faut faire complètement abstraction du langage adapté de l'animal au langage humain, du langage intuitif qui est son langage propre. Voilà.
Donc on retrouve toutes les informations sur le site internet de Fabienne, c'est www.communicationanimale.ch.
Voilà. Et j'aimerais peut-être juste, c'est l'instant pub, mais j'aimerais juste dire que j'ouvre un stage sur Bordeaux et que j'encourage aussi les gens qui parfois me reprochent de faire des stages qu'à Paris, de venir me rejoindre à Bordeaux si jamais.
Génial. Bah, la radio est écoutée partout dans le monde. Donc vous pouvez même avoir des demandes un peu partout, pas seulement en France, mais partout dans le monde, dans les pays francophones ou ailleurs.
En tout cas, merci pour l'invitation.
Merci Fabienne, c'était fascinant de vous avoir cet après-midi. À bientôt.
Merci beaucoup.
Belle journée à tous.